9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, ravi de vous retrouver. On parlait des hauts potentiels ce matin avec Habiba Dernoun. Bonjour et bienvenue. Vous êtes révélatrice de haut potentiel. Oh, en quoi consiste votre métier ce matin? Patrick Soulaï est avec nous. Bonjour Patrick.
Hola Philippe, ça va?
Ça va. Votre mère m'a appelé, donc elle m'a dit j'ai pas compris comment vous avez appelé mon fils. La dernière fois, c'est pas celui que j'ai porté pendant 11 mois.
Exactement.
Donc mon fils, il s'appelle Soulaï et pas Soulet.
11 mois et 2 semaines.
2 semaines.
Soyons précis.
Vous avez raison, il faut prendre votre temps. On va parler des hauts potentiels, alors HP, alors il y a plusieurs noms hein, pour parler des hauts potentiels.
Ça,
longtemps on les a appelés les surdoués.
Ouais, c'est comme ça qu'on m'a appelé au départ.
Ouais. Ouais. Vous êtes un haut potentiel, Habiba?
On le dit.
Ben non, pas on. qui vous le dit?
On me l'a longtemps dit et je l'ai souvent refusé.
D'accord. À quel moment est-ce que vous avez été dépisté HP, haut potentiel?
À 8 ans. Ouais. Moi c'est très vieux déjà. Ouais. À l'école primaire, on m'a diagnostiqué haut potentiel. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça parce que ça remonte déjà à loin, 1987. Et puis voilà quoi, apparemment.
Qu'est-ce qu'on vous a dit alors à ce moment-là? On vous a dit quelque chose ou pas du tout? On vous a fait passer un test et puis on ne vous a rien dit à vous?
On ne m'a rien dit au départ. Au départ, ça s'est plutôt manifesté par plein d'examens, plein de tests. On m'a sortie de ma classe, j'ai été extraite de mon milieu voilà, scolaire. Mmh. Et puis au départ, je ne comprenais pas spécialement ce qui se passait. Jusqu'au jour où mon père a été convoqué chez la directrice. Et c'est là où on lui a expliqué que voilà, j'avais des capacités autres. Mmh. Et qu'il fallait faire quelque chose.
Est-ce que vous vous sentiez différente? Et à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous dire que finalement vous n'étiez peut-être pas comme les autres?
J'ai commencé à me sentir différente quand on me l'a fait comprendre, en fait.
Ah oui,
On m'a mis l'étiquette.
Ouais.
Quand on m'a clairement fait comprendre qu'il y avait quelque chose de différent chez moi, que j'étais pas comme mes autres camarades, qu'on attendait autre chose de moi aussi. Donc à partir de ce moment-là, ouais, je me suis sentie différente.
Mais sinon, avant, non?
Pas du tout, j'étais une petite fille, rien de plus normal.
Ouais, parce qu'après, quand on regarde les caractéristiques des hauts potentiels, vous vous êtes retrouvé dedans, dit que voilà, ils cherchent la présence des adultes, ils sont souvent rêveurs dans leur coin. Ça, c'était pas vous?
Si, c'était moi, mais je le raccrochais pas forcément à ma surdouance ou au potentiel, en fait. Pour moi, c'était voilà, à l'âge de 8 ans, on cherche forcément l'attention d'un adulte, de ses parents, de ses frères et sœurs, de sa maîtresse.
Qu'est-ce que vous en avez fait de votre surdouance?
Je l'ai longtemps cachée.
C'est-à-dire?
Je l'ai nié, j'en ai pas voulu. Je l'ai refusé.
Et comment est-ce qu'on refuse quelque chose qu'on est?
On met en place un mécanisme de défense. Quand on voit que les adultes voilà, montrent une certaine convoitise à l'âge de 8 ans, ça, voilà. C'est une des caractéristiques du haut potentiel, c'est que le cerveau fonctionne à 1000 à l'heure, il ne s'arrête jamais.
Ça va trop vite.
Ça va trop vite, exactement.
Mais vous avez senti qu'à partir du moment où vos parents ont leur a mis cette étiquette sur vous, ils ont eu des attentes,
mes parents n'ont pas spécialement mis d'étiquette sur moi pour eux. Enfin, voilà, à l'époque, on leur disait que j'étais surdouée. Pour eux, ça ne changeait rien, je restais leur fille. Mais c'est plutôt le corps professoral qui a tout fait pour marquer ma différence, qui a fait en sorte que voilà, je ne sois pas considérée comme une élève normale, que je ne sois pas une camarade normale. Je suis passée du statut de camarade normale à « Ah, c'est toi qui a... »
Qui a un QI 2.
Je suis obligée de le dire.
Je vous le rendrai.
À l'époque, c'est...
Je vous le rendrai, rassurez-vous.
À l'époque, c'était un petit peu plus de 120.
D'accord. Ah, c'est la limite 120, c'est pas 130 le
130,
QI
130, ouais.
Ouais. Vous étiez à la limite de border.
Ouais, mais j'avais 8 ans.
Et aujourd'hui, vous êtes à combien?
Je n'ai pas voulu le refaire.
Parce que ça peut évoluer. Hein.
Ça peut évoluer, ça peut baisser, ça peut augmenter, mais j'ai pas voulu le refaire.
Pourquoi?
Je sais pas, peur d'être déçue peut-être.
Ah ouais, quand même.
Ouais,
donc,
ouais.
Alors, non seulement c'est quelque chose que vous refusez.
Que j'ai refusé.
Ah, voilà. Oui,
là, je suis en plein coming out là.
C'est-à-dire, vous acceptez d'être quelqu'un
maintenant,
de...
Maintenant, ouais. Parce que maintenant, j'ai compris que voilà, c'était pas une tare, c'était plus une force qu'une faiblesse.
Bon. Et aujourd'hui, si on est là, c'est pour expliquer aux gens comment optimiser ce haut potentiel et savoir comment bien s'en servir.
C'est ça.
Après vous, Habiba, qu'est-ce que vous avez fait comme études?
Moi, j'ai fait des études de commerce.
Oui.
des études avec lesquelles je n'ai rien fait, puisque j'ai atterri dans les ressources humaines.
Mmh.
Voilà.
D'accord. Et aujourd'hui, dans la vie, vous faites quoi ?
Je suis consultante. Et coach.
D'accord. Bien. Pourquoi c'est important que les gens comprennent bien ce que c'est qu'un haut potentiel ? Un haut potentiel, ça a des besoins spécifiques ?
Ça a des caractéristiques spécifiques. Souvent, on dit qu'il a des symptômes, même si ce n'est pas considéré comme une maladie. C'en est pas une, d'ailleurs. Mais le haut potentiel, il a des spécificités extraordinaires. Voilà.
Dans le sens qui sortent de l'ordinaire.
Qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas dans la norme, en fait. Donc, en fait, une des caractéristiques du haut potentiel, c'est que tout est hyper chez lui. Il est hypersensible, il est hyper lucide, il est, tout est exacerbé, ses cinq sens sont...
Alors, hypersensible, ça s'exprime comment ?
Ah ben, de plusieurs manières, ça peut être une hypersensibilité intellectuelle, il a tout le temps besoin d'être alimenté, ça peut être une hypersensibilité sensorielle, voilà, avec les cinq sens. Le moindre stimuli peut le déranger, peut le perturber. Bah là, je suis en train de vous parler et j'entends tout ce qui se passe à côté. Voilà, le moindre petit bruit.
Moi, je vous rassure, moi aussi.
Voilà, ok.
Moi, j'entends tout ce qui se passe à côté. J'entends le téléphone, j'entends tout.
Voilà.
J'entends
d'ici. Voilà, c'est ça.
Mais moi, j'ai appris à me faire une bulle et à.
J'ai appris aussi.
Vous voyez,
Mais au début, c'est compliqué. Au début, c'est. Quand il y a plusieurs personnes qui parlent dans une pièce, même si on est concentré avec une seule personne, on va. Nos radars vont être sur tout ce qui se passe autour de nous. Voilà.
L'hypersensibilité s'exprime comment également ?
Hyper-empathie, voilà. Donc c'est ressentir tout ce qui se passe autour de nous. Ça peut paraître irrationnel parce qu'un haut potentiel, il va sentir plein de choses. Voilà, il peut être dans une pièce et tout de suite sentir que ça va bien, très bien, comme il peut sentir que ça va pas bien et là il va vraiment le ressentir de manière très très forte.
Mmh. Et ensuite, donc, dans les apprentissages, parce qu'effectivement, tous ceux qui nous écoutent disent « Ah ouais, j'aimerais bien être super intelligent, j'aimerais bien avoir un super QI, voilà.
Bah, » La difficulté, elle est là, c'est que souvent, on raccroche la surdouance à un QI élevé, alors que ça n'est pas que ça.
C'est pas être super intelligent, un haut potentiel, c'est ça que ça veut dire ?
C'est une intelligence qui est particulière, voilà. Moi, je ne suis pas à même de dire que, d'évaluer l'intelligence des gens, mais c'est une intelligence qui est pas normale. D'ailleurs, souvent, on n'est pas compris. Souvent, les gens ne comprennent pas. On est dans notre monde. On a une façon de voir les choses qui est différente. On est tout le temps dans un questionnement permanent. Voilà. On a des questions existentielles à longueur de temps.
C'est-à-dire que, par exemple, ce matin, qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question avant de venir à la radio ?
Je suis obligée de le dire, c'est intime là.
Bah oui, vous pouvez le dire, on coupera au montage.
On coupera au montage alors.
Non mais il faut le dire et après on coupe.
Couper, je vous le dirai après.
Mais est-ce que ce matin vous vous êtes posé des questions existentielles par exemple, ou pas du tout ?
Je sais pas, j'en ai pas le souvenir. Là comme ça, j'en ai pas le souvenir.
Bon, donc il n'y avait pas de questions existentielles ?
Pas spécialement, peut-être pas.
Après, dans votre parcours scolaire, ça a été un atout ou pas ?
Non, parce que je ne l'ai pas mis en avant. Je l'ai même caché. Justement, pour ne pas qu'on me voie, pour ne pas qu'on me remarque, je me suis collé moi une autre étiquette, l'étiquette de la fille normale, celle qui rentre dans le moule. Je me suis moi-même auto-mise dans un moule. Et du coup, j'en ai pas profité. Et j'ai pas utilisé tout ça, quoi.
C'est-à-dire que vous vous êtes amusé à avoir des mauvaises notes.
Avoir des notes convenables. Mais de temps en temps, ouais, c'est vrai que j'étais un peu borderline. Je me suis dit, oh, allez, si je descends en dessous de la moyenne, on me regardera moins, on me remarquera moins.
Et vous l'avez fait.
Et je l'ai fait.
Donc aujourd'hui, de toute cette expérience, vous en avez fait un outil pour aider les hauts potentiels,
c'est
justement,
ça, ouais.
Et justement pour les aider à se révéler et c'est à ça. Sortir des étiquettes.
C'est ça.
Patrick, vous avez une histoire à nous raconter ?
Ouais, j'ai une super histoire à vous raconter.
C'est votre mère qui vous l'a raconté ?
Entre autres.
Mam Soulaï. Hein,
Mam Soulaï.
Parce qu'il faut qu'elle arrête de m'appeler.
Gros bisous, Mam Soulaï, d'ailleurs. Ouais. J'ai une histoire à vous raconter par rapport aux étiquettes, justement. Et cette histoire, elle va nous amener très loin. Très loin géographiquement et très loin également dans le temps. En 1880, en Inde. En Inde, et on va pas pas aller dans les bourgades défavorisées, on va plutôt aller dans une maison bourgeoise où on va avoir une famille musulmane. Et dans cette famille musulmane, il va y avoir une petite fille qui s'appelle Rokeya. Et cette petite fille, Rokeya, c'est une petite fille qui a 6 ans, qui est là et qui aime tout ce qu'elle fait dans la vie, mais elle n'a pas le droit d'apprendre. Elle n'a pas le droit de savoir compter, elle n'a pas le droit de savoir lire, elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit, tout simplement. Leur but, c'était quoi ? C'était de se marier avec un très bon parti et de faire des enfants, d'être femme et maman. Rokeya, elle a une chance. C'est qu'elle s'entend très bien avec son grand frère. Et donc, avec son grand frère, qui lui va à l'école, elle apprend en cachette tout ça, tout ce que lui, il apprend. Mmh. Lire, écrire, tout ce dont un enfant a besoin à l'école. Et après, à 16 ans, on la marie, Rokeya. On la marie, c'est l'époque, hein, écoute, hein, ils ne perdaient pas de temps à l'époque.
On la marie. Ils n'allaient pas chez Abelny, ils n'appelaient pas les petites annonces pour se marier à 16 ans, c'était fait.
C'était fait, c'était réglé.
Ouais.
Et elle tombe sur un homme, elle a de la chance, elle tombe sur un homme qui l'aime, mais qui lui met toujours cette étiquette-là. Tu es ma femme, je t'aime, tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'as pas les capacités. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle écrit en cachette un livre qui s'appelle Sultana Dream. Et dans ce livre, elle parle d'un monde qui s'appelle Ladyland. Et dans ce monde, eh bien, les femmes sont scientifiques, médecins, les femmes sont politiques. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font dans ce monde ? Eh bien, les hommes, ils restent à la maison, ils s'occupent des enfants. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont très heureux de cette situation. Elle sort ce livre en 1905. Et c'est un raz-de-marée en Inde. C'est une révolution. Ça marche, mais de dingue. Son mari, quand il voit ça, il est très fier. Il dit, mais waouh, quelle pépite cette femme. Pépite, je dirais.
C'est combien, c'est la mienne.
Elle se dit, waouh, c'est extraordinaire. Il se dit, waouh, c'est extraordinaire, ma femme, elle fait ça. Et donc, ça retourne l'Inde. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'elle, pourquoi ? Parce que c'est le premier livre féministe. Elle a, grâce à ça, grâce à cette notoriété, elle a créé la première école pour filles et femmes musulmanes qui a existé jusqu'en 2009. Donc de 1905 en 2009. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis des stratégies en place pour pas accepter son étiquette de femme à la maison, de maman. Elle a apporté ce qu'elle, elle voulait apporter.
Elle est sortie du mot, là, Habiba.
C'est ça, Rokeya. Elle a bien raison.
Alors, le livre est toujours disponible, hein, il existe toujours.
Yeah, Sultana Dream, yes.
Voilà, c'est devenu un livre culte.
Yes, exactement.
Rokeya Sahawat Hussein. Regardez.
Rokeya Sahawat Hussein.
Voilà, vous pouvez trouver le livre. Mais yes. Effectivement, c'est un bel exemple. Elle n'est pas très connue, finalement, en France.
Non, elle n'est pas connue.
Ce n'est pas un exemple de... Ouais.
Et ce qui était intéressant pour moi, c'était de justement trouver une histoire de quelqu'un de pas connu. Que personne ne connaît, en tout cas ici, et de montrer qu'au final, oui, elle aussi, on lui a mis une étiquette. Mais elle a mis en place des stratégies pour sortir de ça. Et elle a prouvé, en fait, qu'elle était capable de... Il faut se rappeler qu'elle est née en 1880, 1905, c'était pas la joie en Inde, hein, pour les femmes. C'était pas... j'ai pas parlé des risques, mais elle a pris des risques en faisant ça. Heureusement, elle avait un environnement favorable, mais elle a pris des risques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple dans les pays où on vit, ou même en Inde, de faire ça qu'à cette époque-là.
On parle d'étiquette, mais tout le monde a une étiquette, pas forcément les hauts potentiels. D'ailleurs, on nous colle à tous des étiquettes.
Oui.
Bien sûr, on nous colle à tous des étiquettes. Et depuis tout petit, ce qui était intéressant dans ce que disait Habiba, c'est qu'en fait, eh bien, nos parents sont les premiers à nourrir ça, à nourrir ce besoin psychologique, parce que les étiquettes, c'est lié à un besoin psychologique, à nourrir cette représentation. Après, notre boulot à nous, c'est de soit l'accepter si on est OK avec cette étiquette, soit faire le travail pour créer notre propre étiquette.
Mais finalement, on n'est pas tous conscients qu'on nous colle une étiquette.
Non, on n'est pas tous conscients, mais ce qui est fou, c'est que depuis qu'on est petit, ce qui se passe, c'est que on va chez le médecin, on va voir, on est suivi alimentairement, comment on grandit, comment
on mesure, oui,
on mesure tout en fait. Ouais. On mesure tout. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un fast-food, c'est moins bon pour notre corps que aller dans un resto gastro. Mais on nous a pas enseigné le fast-food mental en fait. Le fast-food mental, et dans le fast-food mental, il y a cette étiquette. Et aujourd'hui, ce qu'on veut partager avec vous, c'est que tous les jours, vérifiez si vous allez au fast-food ou si vous êtes dans un resto gastro.
Habiba Dernoun et Patrick Soulaye sont nos invités ce matin. On va voir comment exploiter son haut potentiel quand on en a un. Vous pourrez bien sûr rejoindre la conversation si elle vous inspire au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Comment exploiter à fond son haut potentiel? On en parle aujourd'hui avec Habiba Dernoun, qui est révélatrice de haut potentiel, et puis Patrick Soulaye, formateur de process communication. Il y a beaucoup de gens qui découvrent qu'ils sont surdoués à l'âge adulte, hein, d'ailleurs, qui passent à travers les mailles du filet.
Absolument.
Qu'est-ce qui les amène finalement à consulter?
Consulter, je ne sais pas si ça serait le terme exact, mais en tout cas, c'est des gens qui ont vécu pendant très longtemps avec une espèce de confrontation en eux. Ils ont plein de choses qu'ils n'arrivent pas à expliquer, un comportement qui peut perturber leur entourage. Ils n'arrivent pas forcément à mettre un mot dessus, en fait. Mmh. Et je pense que c'est ce qui les pousse aussi à aller passer les fameux tests qui existent aujourd'hui. Pour pouvoir mettre un mot, en tout cas, sur ce qui les perturbe.
Voilà, et donc ils sont testés, ils ont un chiffre.
Ils ont un chiffre, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de paramètres aussi à prendre en compte. L'environnement dans lequel ils ont grandi, leur activité professionnelle, leur famille peut-être. Et la manière dont eux, ils interagissent avec tout cet environnement-là. Quoi.
Alors, on parle de HP pour haut potentiel, mais HP, il y a d'autres HP, par exemple, en entreprise, à Viva.
En entreprise, il y a les HP qui sont la nouvelle lubie des entreprises aujourd'hui, mais c'est à pas confondre aussi avec les hauts performants, qui est une autre catégorie.
En entreprise, ce sont les hauts performants, c'est ça?
Alors les hauts performants, c'est des gens qui font très très bien leur travail. Vous pouvez les mettre sur n'importe quel projet, ils vous mèneront la chose de A jusqu'à Z, ils le feront très très bien et il y aura aucun souci. En revanche, ce qui leur manque, la seule chose, en tout cas moi, ce que j'ai personnellement vu de par mon travail, qui leur manque, c'est des compétences en gestion et en leadership, qui est une des caractéristiques du haut potentiel, qui ne met pas forcément en avant, en fait.
D'accord. C'est-à-dire que ces hauts performants sont des gens qui mènent à bien des projets, mais ce n'est pas des leaders.
Mais à partir du moment où on va les mettre on va leur demander d'être dans une posture de leadership ou de management,
c'est pas leur truc, en fait.
C'est pas leur truc,
mais
ils ont pas
très bien.
Ils ont pas cette fibre-là, en fait.
Alors qu'un haut potentiel est un leader, c'est ça? Ou peut être un leader?
Il peut être un leader. Alors, un haut potentiel, s'il est placé dans un poste de leader, il le fera très très bien. Mais par contre, tous les hauts potentiels ne sont pas voués à être des leaders. Il y a des hauts potentiels qui veulent aller élever des chefs dans le Larzac. Et ça enlève en rien leur spécificité.
Il y a pas mal de traits communs chez le haut potentiel, mais c'est pas tous les mêmes. Hein. Il y a une grande diversité de profils.
Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a une liste non exhaustive. On n'est pas obligé, en étant haut potentiel, de remplir toutes les cases. Mais en tout cas, quand on a une majorité, clairement, la question se pose très rarement.
Alors, Habiba et Patrick, je voudrais qu'on accueille Saba, qui est au 01 53 48 3000. Saba, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, bonjour. Je suis ravie d'être en ligne. C'est une première pour moi.
Écoutez, le plaisir est partagé, Saba.
Oui, je vous écoute tous les matins, Adil et vous, enfin toute l'équipe. En tout cas, je tenais déjà à saluer le travail de Beurre FM. Je suis une auditrice fidèle et je tenais à le souligner. Je vous appelle moi ce matin parce que je suis en route pour le travail avec les grèves. Je suis en retard. Et le sujet me touche particulièrement par rapport à mon enfant qui est au collège. Et effectivement, je voulais... Alors, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais en tout cas, ça m'a interpellée. Aujourd'hui, le système scolaire étiquette beaucoup les enfants. Mon enfant a été étiqueté depuis la maternelle. À ce jour, Et c'est vrai que il n'y a pas forcément des démarches particulières auprès des parents pour pouvoir souligner, comme disait, alors c'est Habiba.
Oui, c'est Habiba.
C'est ça, oui.
Qui effectivement met en avant des tests ou alors c'est tout de suite, il est étiqueté, voilà, ça ne va pas, on ne trouve pas forcément des solutions. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a ce système où on met les enfants dans des cases et après, ben, ils sont quand même très jeunes, on est quand même là pour les accompagner et les orienter pour qu'ils puissent grandir sereinement et trouver leur voie.
Mais qu'est-ce qu'on vous dit à vous exactement ?
C'est un peu tout et n'importe quoi dans le sens où il y a des problèmes de comportement, ça c'est une chose. Mais au niveau du travail, les notes sont là. Il y a pas de problème particulier, les devoirs sont faits. Le niveau est bon, mais il n'y a pas d'accompagnement particulier quand un enfant, effectivement, n'entre pas dans le moule.
Mais vous, en tant que sa mère, vous le voyez comment, votre enfant ? Vous le voyez différent ? Vous le voyez spécial, anormal ? Vous le qualifiez comment, votre enfant, à vous ?
Bah, moi, je trouve que mon enfant, il est plus dans la motricité que... Et effectivement, il a du mal à respecter les règles de collectivité où il faut rester assis sur une chaise toute la journée. Aujourd'hui, le système scolaire, je pense qu'il est pas forcément en adéquation avec chaque... Enfin, c'est vrai que ça va être compliqué aussi de mettre en place pour tous les enfants qui ont des particularités, hein, je comprends. Mais c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, rester assis en classe.
Est-ce que c'est les enfants d'aujourd'hui ou peut-être que les enfants d'aujourd'hui se permettent des choses que les enfants d'avant se permettent pas? Parce que j'ai beaucoup travaillé aussi en système scolaire, ce qui se passe c'est que y a une défaillance en système scolaire, c'est qu'on travaille pas le savoir-être. On demande de la performance sur des notes, sur des choses tangibles, alors que le savoir-être devrait prendre en compte la spécificité, bien sûr, pas forcément individuelle, mais la spécificité de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un enfant qui reste immobile, c'est pas forcément bon pour lui. Un enfant, il a besoin de bouger, et même dans l'apprentissage. Aujourd'hui, on sait, il y a des études, on sait que bouger, c'est bon justement pour apprendre. Et rester immobile.
Et pour mémoriser, pour ancrer les apprentissages.
Et pour mémoriser et ancrer les apprentissages. Ce que vous pourriez faire, selon moi, c'est peut-être, parce que à l'école, ça va être compliqué, mais vous, ce serait peut-être envisageable d'encourager votre fils à pouvoir le faire, avoir un cadre chez vous dans lequel il peut le faire, comme ça, ce dont on parlait tout à l'heure du besoin psychologique, ce besoin-là serait nourri au moins dans son cadre familial, et du coup, dans le cadre scolaire, eh bien, il pourrait aller suivre comme il peut les règles.
Habiba, dans votre vieux temps, en 1987, vous étiez toujours debout à l'école, comment ça se passait ?
Moi, je bougeais beaucoup, mais c'est vrai que bizarrement, l'année où on m'a évalué, on m'a diagnostiqué, je sais pas quel terme exact peut résumer ça.
On a posé un chiffre.
Moi, j'étais dans une classe, j'avais une maîtresse qui autorisait beaucoup le mouvement. Et aussi loin que je puisse me souvenir, je bougeais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est peut-être ça aussi qui a favorisé, je sais pas, l'émergence de ce don si particulier.
Puis on a perdu notre auditrice, mais qui nous écoute. On va prendre Kamel qui est là. Kamel, bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Oui, allô. Oui, bonjour.
Bonjour Kamel, bienvenue.
Merci, je vous remercie. Je voulais intervenir sur le projet, sur le sujet, parce que, on va dire, je suis concerné parce que j'ai un peu vécu ça. Et d'autre part, là, je suis confronté à ça en tant que papa. Mon fils a été... Donc il y a déjà une précision que je veux apporter à tous les auditeurs. Et il faut faire les tests, les analyses chez un professionnel qui permettent de caractériser l'enfant. Autour de moi, en fait, à quasi tout le monde dit dès qu'un enfant est un peu éveillé, un peu, on va dire, il est précoce, il faut lui faire sauter de classe. Et autour de moi, plein d'enfants ont sauté de classe Or, ils n'avaient pas spécialement besoin de sauter de classe. Après, ça provoque quelque part un mal-être, un moment surtout à l'adolescence.
Exactement.
Où il va y avoir des décalages entre les âges des gens dans la classe, des élèves dans la classe, où certains commencent à rentrer dans un corps d'adulte, à des problématiques d'adulte. Mmh. Et l'enfant reste quelque part on voit toujours dans l'enfance. Donc il y a ça, donc faites les tests, allez voir des professionnels. C'est pas parce que quelqu'un est éveillé, dégourdi, qu'il est précoce ou a un haut potentiel. D'autre part, chez les hauts potentiels, il y a plusieurs palettes. Je l'ai été moi-même, mon fils l'est, mais on n'a pas les mêmes caractéristiques.
Attendez, parce que Kamel, vous dites je l'ai été moi-même, oui. Ça veut dire que vous ne l'êtes plus maintenant?
Je n'aime pas me mettre dans moi-même dans cette case-là. En fait, à l'époque, le terme haut potentiel est beaucoup plus tendance ces dernières années. Donc,
aujourd'hui, ouais.
Les années 2000. Moi, je suis un enfant qui a été diagnostiqué dans les années 80.
Surdoué.
Dans les années 80, on disait surdoué, précoce. Mais on ne disait pas au potentiel. Sauf que, en fait, on l'appelle comme vous voulez, hein, ce type de personne. Mais au final, il y a plusieurs types, on va dire, de précocité ou on va dire au potentiel. Un haut potentiel. Par exemple, typiquement, mon fils, il est très très fort. Il est très fort. Finalement, sa note, c'était par rapport à l'âge. En fait, il a un âge beaucoup plus évolué. Sur des questions de géométrie, d'arithmétique.
Il y a une maturité particulière.
Le nuage linguistique, en fait, en gros, c'est le nuage de mots qu'un enfant peut utiliser. En fait, en fonction des âges, on utilise un certain nombre de mots. Et en fait, il a un nuage de mots quasiment celui d'un adolescent.
Souvent, on sait que la palette du vocabulaire est très importante chez les enfants qui ont un haut potentiel.
Ouais. Voilà. Mais par contre, en fait, sur d'autres choses, il a exactement les caractéristiques de son âge. Donc en fait, il faut être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. On résume ça souvent au QI. Et QI, donc qui est très souvent, en fait, c'est des tests plutôt d'arithmétique et
de logique,
de géométrie, de logique. Mais c'est pas du tout. Donc il y a une intelligence émotionnelle, il y a une intelligence sociale, il y a des gens, en fait, qui ont des HP.
C'est exactement ça.
Qui ont tout à l'heure quelqu'un parlait de savoir-être, et en fait ils ont ce truc-là naturel chez eux. Ils arrivent à s'intégrer dans les groupes, ils arrivent à se faire comprendre par tout le monde.
Il y a certains enfants ou adultes qui n'arrivent pas justement à s'intégrer dans des groupes. Il peut y avoir les deux cas de figure.
Et donc, en fait, en fonction, moi, en fait, finalement, je l'ai caché. Bon, ça s'est vu parce que je commençais à faire, on va dire, des bêtises. Je suis pas du tout. Donc, lui, il me fait, en fait, j'ai un enfant qui il est tout jeune, il a 8 ans. Il me fait une grosse crise d'adolescence parce que son quotient émotionnel il est sur deux rythmes différents. Il arrive à percevoir les émotions comme un adolescent. Ouais. Donc, il vit des injustices, ce problème d'autorité, mais en même temps, sa gestion, en fait, son moteur de traiter les émotions est celui de son âge, est celui de son enfant de 8 ans. Donc, ça crée plein de conflits.
Mais
moi, j'ai pas trouvé ça. Donc, en fait, dites-vous qu'il y a plusieurs formes, et le fait d'aller voir un spécialiste qui va mettre des mots, qui va mettre, je vais pas dire des scores, mais il va caractériser comment est l'enfant. Et ça permet de mieux, on va dire, appréhender, gérer.
Mais le spécialiste Kamel, il va pas lui mettre une étiquette, justement, à l'enfant?
En fait, il n'y a pas d'étiquette. Moi, on m'a dit, ça, c'est à votre libre choix. Est-ce que vous voulez faire sauter d'une classe ou pas? Nous, on a choisi qu'il reste dans la classe.
C'est un très bon choix.
Et ça d'une part, et donc déjà de fait, il y a pas d'étiquette. Mon enfant, on lui dit pas spécialement. En plus, mon enfant, en fait, il se trouve qu'il est hyperactif, qui est autre chose, hein, qui est pas forcément lié à son côté au potentiel.
C'est un enfant.
Parce que souvent, on lit l'hyperactivité.
Il a été diagnostiqué à la maternelle. En fait, c'était le HP, ça a été au CP. Hyperactif, c'était à la maternelle. Et ok, donc pour le coup.
Vous êtes toujours HP, Kamel, je vous rassure. Vous êtes resté au parleur. Franchement, là, j'essaye de trouver le moment où vous allez respirer pour pouvoir embrayer, mais.
Oui.
Mais il y a beaucoup de choses, mais on va faire de la publicité, Kamel. Et c'est vrai que vous avez...
Oui, il faut gagner de l'argent.
Exactement, beaucoup d'argent. Vous avez bien dressé, le tableau de ce que c'est qu'un enfant et le profil de votre enfant, Kamel. Merci pour votre témoignage.
Je vous remercie, bonne continuation et bonne chance aux parents qui sont confrontés à ça.
Merci beaucoup, Kamel, pour votre intervention. Alors, on verra, Habiba et Patrick, dans un instant, justement, comment optimiser son haut potentiel aujourd'hui. Et puis, on verra ce qu'on peut obtenir grâce à la ProcessCom et ces fameuses étiquettes qu'on nous colle toujours, Patrick.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, comment exploiter son haut potentiel. J'ai invité aujourd'hui Habiba Dernoun, qui est révélatrice pour Haut Potentiel, et Patrick Soulaï, formateur en process communication. On est en train de parler de l'utilité ou pas, et de la pertinence ou pas, de sauter une classe pour un enfant. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, Habiba ?
Moi, je parlais de mon expérience personnelle. On casse un petit peu l'évolution de l'enfant à partir du moment où on lui fait sauter une classe. On m'a fait sauter une classe quand j'avais 8 ans. À 8 ans, on ne comprend pas spécialement ce qui nous arrive. On s'en fiche un petit peu de savoir qu'on est au potentiel ou pas, qu'on est surdoué ou pas. On veut juste être un enfant, rien de plus normal. Jouer avec ses camarades et pas passer son temps à faire des tests. Moi, pour l'avoir vécu aussi, le fait de sauter une classe, si je pouvais revenir en arrière, bien évidemment que voilà, j'aurais refusé. C'est faire sortir un enfant de son milieu normal, de son milieu naturel, des enfants du même âge avec lesquels il évolue, pour le mettre justement dans une autre catégorie, dans une autre case, et lui demander autre chose.
Mais est-ce qu'il faut mettre les enfants au potentiel tous ensemble ou pas, dans la même classe ?
Je pense pas, non. Enfin, je pense que ça doit dépendre des cas. En fait, ce qui est important, je pense, dans l'enfance, c'est de pas se tromper de sur quoi on parle. C'est-à-dire on a parlé de sursensibilité, mais ça reste quand même des enfants. Donc, dans leur construction, ils ont quand même besoin d'un environnement particulier. Le témoignage qu'on a eu du papa juste avant le décrivait très bien. Il avait des émotions d'adolescent, mais une gestion de ses émotions d'enfant. Et donc là, les parents ont leur rôle à jouer. Les professeurs ont leur rôle à jouer. Alors si, par exemple, on est dans un cas où l'enfant, il est en CE2 et je dis n'importe quoi, on le fait passer au collège, le prof qui est habitué à gérer les émotions d'un enfant en primaire... Ben, c'est pas celui du collège. Donc, il va y avoir déjà une difficulté pour lui. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Au potentiel, ça veut pas dire je sais tout faire. Non, ça veut pas dire ça. Ça reste des enfants.
Sur la question des étiquettes qu'on nous colle à tous, Patrick, oui. Quelle est l'importance finalement de ces étiquettes ? Est-ce qu'on est obligé de ressembler à l'étiquette qu'on nous a collée, et est-ce qu'on y ressemble forcément ?
Alors, moi, je dirais déjà l'important, c'est de se rendre compte qu'on a une étiquette et que on agit par rapport à ça ou pas. Déjà, se rendre compte que quand on a grandi dans un environnement et on a donné des étiquettes. Il y a des étiquettes toutes bateaux. T'es bordélique. T'es nul en maths. Ok. Mais
c'est peut-être pas une étiquette. C'est peut-être vrai.
C'est peut-être vrai.
C'est souvent vrai d'ailleurs.
Ça dépend. Moi, j'étais organisé à ma manière. Et du coup...
Traduisez bordélique.
Très.
Exactement. Mais du coup, ce qui est important, c'est de voir cette étiquette et de plus tard, au début, enfant, c'est important, ça nous aide à nous construire. Mais plus tard, il faut avoir le choix de se dire, est-ce que ça me convient ou pas ? Parce que si on ne fait pas ce travail-là, psychologiquement, ça bosse quand même à l'intérieur. Et inconsciemment, on n'est pas OK avec cette étiquette. Donc, on va avoir ce que tu disais tout à l'heure vraiment bien, un combat interne. Et on va pas savoir d'où ça vient. Tu vas avoir un combat interne parce qu'on t'a mis une étiquette, tu n'y as jamais pensé, mais au fond de toi, tu n'es pas d'accord avec ça.
C'est ça.
Au fond de toi, tu ne te dis pas « je suis nul en maths ». Tu dis non, moi aussi, je sais le faire. Mais tu n'oses pas le dire parce que toute ta famille, tout le monde t'a dit que tu étais nul en maths. Donc, pour revenir au haut potentiel, des fois, tu peux être en galère sur des sujets. Mais tu peux pas le dire. Parce que tout le monde, depuis que t'es petit, on te dit, Bah, t'es en potentiel, tu sais tout. Mmh. Non, c'est pas vrai. Mmh. C'est pas comme ça.
Comment est-ce que justement, Habiba, vous, alors, vous vous adressez à des adultes, vous, ouais. Vous aidez les hauts potentiels à se révéler?
Alors moi déjà, je pars de mon expérience et la première étape, c'est de l'accepter. Accepter sa différence, accepter son identité profonde, c'est pas quelque chose qui est facile. Je dis pas qu'il n'y a pas des hauts potentiels qui, pour qui ça, voilà, ça change absolument rien. Mais dans la majorité des cas, c'est, voilà, il y a un alignement qui est pas fait, qui est pas bien fait en tout cas depuis le début, et on grandit avec. Donc l'étape principale, c'est déjà d'accepter ça, et peut-être même de le revendiquer. Moi, je parle de coming out, parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait.
Donc coming out, ça veut dire le dire, c'est le
dire,
crier.
Le dire ouvertement, ouais, voilà. Voilà, pas forcément le crier, mais en tout cas, l'assumer. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Et après, c'est travailler sur des problématiques qui peuvent être liées à une mauvaise gestion des émotions, à une mauvaise gestion de son propre travail, parce que souvent le haut potentiel, parce qu'on lui a collé cette étiquette justement, il s'éparpille. Comme dans sa tête, c'est tout le temps, ça fuse tout le temps, ça s'arrête jamais. Il va avoir une idée qui va déboucher sur une autre idée, qui va déboucher encore sur une autre idée, qui va déboucher sur une autre idée, et au final, il se passe rien. Mmh. Voilà. Donc l'intérêt, c'est justement à partir de, voilà, de ce constat-là.
C'est que des débuts et pas des fins.
C'est beaucoup de débuts, un petit peu de milieu, mais très rarement des fins. Voilà. Parce que.
Il y en a qui nous écoutent qui vont peut-être se reconnaître.
Hein, bah, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître, ouais, là-dedans. Souvent, moi je pensais que je procrastinais, mais en fait, c'est une autre procrastination. C'est pas la procrastination du manque de motivation, c'est la procrastination, la recherche d'une perfection tant que j'ai pas, pardonnez-moi du terme, pondu le truc. Voilà, ça va pas.
Ce magnifique mot de procrastiner qui fait partie des mots les plus tapés sur Google.
C'est ça, exactement.
À la mode. On a trouvé une excuse.
C'est ça. Mais en fait,
procrastiner, c'est remettre à plus tard.
Oui. C'est remettre à plus tard, mais pourquoi on remet à plus tard? C'est parce qu'il y a un manque de motivation qui est criant dans ce qu'on est censé faire.
Et non pas parce qu'on veut être trop parfait.
Et c'est ça.
Ouais. On se fait croire qu'on veut être trop parfait, mais
alors que pas du tout. C'est parce qu'on n'a pas la motivation nécessaire pour faire ce qu'on a envie de faire. Alors que le haut potentiel, quand il va procrastiner, c'est parce que ce qu'il fait, ce qu'il a commencé à faire, ça lui va pas. Il manque encore quelque chose. Mmh. Et comme il est continuellement en train de réfléchir et qu'il a une créativité qui est assez subtile, bah, tant qu'il a pas justement atteint cette perfection dans l'idée qui a émergé, il s'arrêtera pas. Mmh. Et du coup, il fera pas grand chose.
Alors que la perfection, ça n'existe pas.
Absolument.
Mmh. Bien sûr. Non.
La perfection, à part si on va sur l'étymologie qui veut dire aller jusqu'au bout, ça existe, mais la perfection, c'est en défaut.
Ah, vas-y, sur l'étymologie.
Ouais, l'étymologie, la perfection, ça veut dire aller jusqu'au bout. Ça veut pas dire sans défaut. C'est différent. Mais nous, dans notre société, aujourd'hui, la perfection, c'est sans défaut.
Ouais.
La perfection, le sens premier, c'est aller jusqu'au bout d'une tâche.
Donc les perfectionnistes aujourd'hui sont ceux qui s'emparent d'une tâche et l'amènent jusque à bon port.
Voilà. Et c'est pas sans défaut. Moi, quand j'accompagne des gens, je leur dis oui, la perfection, ok, mais ça veut dire que tu commences à un moment et tu finis à un autre moment. C'est tout. Mais le sans défaut, bah, regarde autour de toi, ça n'existe pas. Mmh.
Vous les accompagnez sous quelle forme, c'est au potentiel, Habiba?
Coaching individuel et sous forme d'atelier aussi, que je fais une fois par mois. Donc le prochain atelier aura lieu le 15 février prochain, sous le thème...
Il n'y a que des HP, il n'y a que des hauts potentiels. C'est sympa.
Il y a des HP, mais il y a des gens qui... le public visé, c'est essentiellement des HP, mais des gens qui peuvent avoir toutes les caractéristiques d'un HP... pas une caractéristique, se sentir au moins HP, 70 voire plus, 70% voire plus.
D'accord. Ouais. Et une réunion que de personnes à haut potentiel, ça parle de quoi?
Ça parle de plein de choses, parce que le haut potentiel, il est alimenté intellectuellement, il aime le débat, donc ça peut parler de plein de choses.
Ça parle.
Ça parle en tout cas.
En tout cas.
Ouais.
Patrick, qu'est-ce que la process communication peut apporter au potentiel?
Alors la process communication, ce qui peut apporter au potentiel et aux gens en général, c'est quoi? C'est que elle met des mots précis sur des séquences de stress, en fait. Parce que moi aujourd'hui, je vais pas stresser comme Habiba, je vais pas stresser comme toi.
Et parce que vous stressez?
Quand je dors, ça arrive. donc voilà, ça met des mots sur nos séquences de stress. Et en fait, c'est comme tout à l'heure.
Des mots ou des étiquettes?
Non, des mots.
D'accord, parce que souvent quand on précise les choses, on peut avoir d'autres étiquettes.
Non, ça met des mots. Parce que ce que moi je trouve magnifique avec la ProcessCom, c'est que c'est un inventaire de personnalité et pas un test. C'est-à-dire, ça te dit ce qu'il y a en toi. Mais ça te dit surtout pas que tu es ceci ou tu es cela. Ça t'explique tes modes de fonctionnement et du coup tes modes de stress. Et ça te permet de mettre des mots sur des comportements inconscients. Et souvent, ce qui se passe, c'est quand je vais décliner un comportement, les gens vont se dire « Ah ouais, c'est pour ça que je fais ça ». Et donc, tout de suite, il y a une déculpabilisation. Parce que souvent, ce qu'on peut remarquer, c'est je m'énerve, c'est comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Le je suis comme ça qui veut dire c'est comme ça, je sais pas quoi faire, alors je laisse faire. Non. Il y a des séquences de stress qui ont été étudiées sur des milliers de personnes et aujourd'hui, il y a des outils pour ça et la process communication est un outil extraordinaire pour ça qui permet du coup de nourrir ton besoin psychologique, de nourrir ton resto gastronomique et de plus aller au fast-food. Et du coup, d'avoir une ligne psychologique, t'as des abdos partout, en fait. Tu vois, t'es bien. Et
ça m'intéresse. Ça marche sur les abdos, parce que alors, si ça pouvait marcher sur les abdos, je veux bien faire de la process com.
Et du coup, à partir du moment où t'es sain, psychologiquement, tes séquences de stress, elles vont devenir de moins en moins importantes, de moins en moins fréquentes. Elles vont pas disparaître, mais tu vas pouvoir les gérer.
Mais expliquez-moi, Patrick Soulaï, comment est-ce que les gens ne finissent pas par habiter l'étiquette qu'on leur a collée? Je vais prendre des travaillomanes.
Ok.
Je crois qu'il y a des travaillomanes dans la. En tout cas, j'ai entendu qu'il y avait des travaillomanes dans la pièce.
Yes.
Donc finalement, est-ce qu'à un moment donné, les gens ils vont pas se dire, ouais, mais de toute façon, moi, je suis travaillomane et finalement, ils vont être contents si l'étiquette leur va. Ils vont se dire, c'est normal, je suis travaillomane.
Non, alors ça, c'est les gens qui font ça, c'est qu'ils ont été, je te le dis, qu'ils ont été mal accompagnés. C'est-à-dire que la personne avec qui ils ont travaillé, il n'a pas bien fait son boulot, ou alors il s'est mal exprimé. Mmh. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas te dire que tu es travaillomane. Je vais te dire, tu as une phase où tu es en énergie travaillomane. Ça veut dire que tu as des caractéristiques travaillomane.
Mais un travaillomane, pour tout le monde,
c'est quelqu'un qui a besoin de structurer son temps, c'est quelqu'un qui a besoin d'informations précises, c'est quelqu'un qui a du mal avec les émotions parce que ce n'est pas précis et parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une caricature. Moi, je connais des travaillomanes, des personnes en énergie travaillomane, qui vont être très drôles qui vont avoir de l'humour. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ils vont dire « Bon, on a bien rigolé, c'est le temps d'y aller, je m'en vais. »
It's over.
Yes. Mm.
À ce qui paraît, les hauts potentiels ont un sens de l'humour très particulier.
Très développé aussi.
Oui, mais très particulier. Je ne sais pas ce que c'est que de l'humour de haut potentiel.
Je ne sais pas, j'ai un humour normal, je crois.
Prenez un jour avec elle, vous allez voir. Moi, j'en connais plein. Je traîne avec des hauts potentiels et bon.
T'as la chance de traîner avec des hauts potentiels.
Oui, j'en connais quelques-uns et ils ont un humour particulier. Alors, accrochez-vous bien, c'est important d'avoir une culture large. Parce que du coup.
Parce que oui, si t'as pas la référence, tu peux pas rire.
Si t'as pas la référence, t'es comme dans les mangas et t'as le petit corbeau au-dessus de ta tête qui fait coin, 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 coin. Parce que tu comprends rien en fait, mais parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ils ont tellement de références. C'est pas qu'ils ont un humour particulier, c'est que peut-être que t'as pas les mêmes références qu'eux. Donc ce qui est intéressant, c'est que plus t'en côtoies. Déjà, moi, ce que je trouvais génial, c'est que j'apprends tous les jours du coup, et du coup ça t'ouvre le champ des possibles.
C'est contagieux, hein, au potentiel. C'est-à-dire que plus on fréquente de haut potentiel, plus on a la chance soi-même de devenir un haut potentiel ou pas?
Non, je pense pas.
Non.
Non, non, non. C'est pas contagieux. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie, donc ça s'attrape pas. Mais en tout cas, ceux qui ont la chance de côtoyer des hauts potentiels,
C'est intéressant, comme on avait un papa qui était lui-même au potentiel et son enfant était au potentiel. Quoi.
Ouais, ouais. Mais du coup, on voit bien que le papa a fait un travail, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a fait un travail sur lui qui fait qu'aujourd'hui, il peut accompagner assez précisément son enfant. Et il sait de quoi il retourne.
Habiba, prochain atelier de haut potentiel, donc le 15 février. On s'inscrit comment?
On s'inscrit sur mon site 9g.fr.
Oui. Pardon?
9g.fr.
9g.fr, c'est facile ça. Ouais. Pour le coup, c'est facile à tenir.
Et en toutes lettres.
Comment ça en toutes lettres? Ah, il faut écrire 9. Il faut écrire.
.fr.
D'accord. Patrick Soulaï, on vous retrouve sur votre chaîne YouTube également.
Yes, chaîne YouTube, des vidéos tous les jours. Et vous avez un test gratuit pour connaître vos processus inconscients. Donc, n'hésitez pas à y aller. Ça prend 10 minutes et c'est très précis.
Voilà, vous réécoutez cette émission en podcast, beurrefm.fr. Sur la chaîne YouTube, vous avez l'enregistrement de l'émission. À demain.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.